beaucoup de ceux qui nous écoutent peuvent avoir cette expérience, toute souffrance est indicible au sens où la souffrance d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes n'est jamais possible à restituer dans son intensité, dans son éclat, dans sa profondeur, parce que tout simplement c'est une autre souffrance et que les mots sont impuissants à traduire ça. Alors, si l'indicible s'applique à toute souffrance, oui, mais renoncer à penser à partir de la souffrance, c'est renoncer à penser tout court. Donc je ne vois, je pense que ça mène totalement à une impasse. Quant à cette idée de l'inconcevable, elle a quelque chose de sacré, de métaphysique, de divin, contre lequel toutes les fibres de mon être se dressent, se tendent, parce que ce qui appartient à l'histoire des hommes doit être approprié par tous les hommes, que ce soit le génocide des Juifs, ou que ce soit les atrocités, les massacres des Khmers Rouges, ou le génocide du Rwanda. Donc, ce qui appartient à l'histoire des hommes, qui a été commis par les hommes, doit être pensé par les hommes, ou alors c'est un renoncement, d'une certaine manière, à être homme. Quant à isoler, et je termine là-dessus, la destruction des Juifs sous l'enseigne Shoah, c'est-à-dire sous un terme biblique, religieux, et à l'enfermer dans une sorte de statut sacré, ultra singularisé, là aussi je m'y refuse, parce que d'une certaine manière, j'y vois une sorte de sombre revanche de Hitler, qui poursuivrait, disons, la singularisation d'une race, entre guillemets, par rapport au reste de l'humanité, ce que je me refuse à faire, évidemment. Eichmann pensait que tout le monde était coupable et que, par conséquent, lui n'était pas plus coupable que quiconque, que les crimes dont il était à l'origine, c'est-à-dire avoir transporté des gens vers les camps de la mort, ce qui était ça, son travail, ces crimes-là ne pouvaient pas lui être imputés à lui plus qu'à d'autres. En disant ça, j'indique déjà que je n'entre pas dans son système de défense, puisque c'est précisément de cela qu'il est coupable. Ce que veut dire cette notion de banalité du mal, c'est que la division extrême du travail dans un système moderne peut nous faire perdre très facilement le sens de ce qu'est notre travail. Mais enfin, il faut tout de même en revenir à des considérations, disons, de base et simples. Quand on n'a pas commis quelque chose de répréhensible, on n'est pas coupable. On n'est pas coupable d'être potentiellement un criminel.
C'est le malaise qu'on a éprouvé tous ici en France au moment du procès Papon. La question de savoir dans quelle mesure nos parents, grands-parents, enfin ceux qui étaient présents là pendant Vichy, dans quelle mesure ils ont été responsables, complices, collabos, coupables, etc. Et c'est le malaise allemand aussi. C'est cette difficulté, cette remise en question permanente de la responsabilité, de la culpabilité de chacun. La frontière est difficile à définir, et il s'agit de la définir chaque jour quasiment.
Mais il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. Il faut renoncer à cette idée qu'il y a une frontière. Il y a une zone de transition, ce que Primo Levi a appelé la zone grise. Qui sépare, disons, la victime absolue, totalement innocente de ses actes, innocente au sens où ce qu'elle subit n'a aucun rapport avec des actes qu'elle a commis. Ça, c'est d'un côté la victime. De l'autre côté, le bourreau absolu, celui qui torture Klaus Barbie, si vous voulez, qui prend un plaisir sadique à arracher des ongles, à fracasser des crânes. Eh bien, entre les deux, il y a une zone grise. C'est celle qui sépare ces deux pôles et dans lesquels on trouve les capots, les conseils juifs, Vichy, Papon et toutes sortes de gens. Et il y a le problème de la responsabilité politique, de la responsabilité pénale, et que c'est à nous, collectivement, d'arriver à établir les différentes limites qui séparent les unes des autres. Mais on ne peut pas tracer une frontière qui sépare l'innocence absolue de la culpabilité absolue.
Eyal, c'est pour ça que cette phrase d'Arendt, qui utilise rarement la notion de morale, quand elle dit « moralement parlant, il est presque aussi mal de se sentir coupable quand on n'a rien fait de précis que se sentir innocent quand on est coupable ». Donc, cette phrase-là et nous ramène à une certaine idée de politique. C'est-à-dire, on juge sur les actes, pas sur les intentions. C'est aux actes et aux actes commis que les choses sont jugées et qui doivent être vues. Les mêmes choses par rapport aux familles. C'est pas dans cette participation à cette zone grise, à l'esprit de cette zone grise dans les années 40-45 en France, dans lesquelles un petit peu de marché noir et un petit peu de dénonciation et peut-être option. Je prendrai un exemple de cinéma qui est la cinéaste de parti nazi, la cinéaste préférée d'Hitler, qui était Leni Riefenstahl, qui a fait les grands films de propagande de l'époque. Et à la fin de la guerre, quand elle passe devant la commission de dénazification américaine en Allemagne,